Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La BPI a ce soir le plaisir de vous présenter un nouveau cycle qui s'appellera Lire le Monde, qui nous donnera régulièrement rendez-vous autour de nouveautés éditoriales. Et pour inaugurer ce cycle, la Bibliothèque publique d'information a le plaisir d'accueillir Henri Dougier, qui est le fondateur des éditions Autrement, puisque le prétexte, mais c'est beaucoup plus que ça. Le sujet de ce soir est lié à la parution d'un nouveau coffret qui s'intitule, comme le titre de la soirée, 1914-1924, Guerre et Révolution, dont Henri va vous dire quelques mots, parce que c'est une histoire qui va durer sur quelques temps. Et je le laisse vous présenter un petit peu l'objet et l'objet de la soirée également. Bonne soirée à tous.
Bon, merci d'être venu, merci BPI. Vous m'entendez au fond, là, c'est bon ?
Oui.
Ok. Je vous présente d'abord l'équipe qui est derrière ce programme. Camille Saint-Jacques est un vieux copain, très bon auteur, très bonne écriture. Corinne, qui est François Deneuve, universitaire, complice également de l'aventure. C'est un peu l'équipe des trois. Et sous la lumière, et puis nos invités que je remercie d'être venus, entre autres Marc Répon, que j'ai vu plusieurs fois à l'époque, on avait des différents projets. Et Didier Denink, on ne se connaît pas, mais enfin, on se connaît de nom. Le projet est en effet un peu différent de ce que l'on fait d'habitude. C'était un projet, on a commencé sur 14-18, et puis on s'est aperçu très vite que 14-18 est un thème qui allait être très occupé, très rabâché, avec le risque qu'on a vu arriver des centaines, je crois, on me disait un instant, 250 livres sur le thème qui va continuer en 2014, bien sûr, avec encore 500 bouquins. Donc il y aura peut-être un millier de publications, toutes intéressantes, je pense, sur le conflit sous toutes ses formes. Et on s'est dit avec Corinne et avec Camille qu'il fallait sortir légèrement du prisme de la guerre, des tranchées, de Verdun, enfin des références habituelles, et de s'intéresser à une période plutôt, à une ambiance, un climat, des territoires différents, parfois qu'on ne relie pas à 14-18. Et donc on a pris la période presque 1913, en tout cas préalable à 14, jusqu'à 24. L'idée était de regarder, d'où le titre de ce petit coffret qui est en librairie là-haut, de regarder une période en effet très chargée, en guerre, mais également en révolution, d'où le titre de notre opération, si je veux dire, était « Guerre au pluriel et révolution au pluriel » sur cette période, avec des moments qu'on connaît mal, le Dublin, l'Irlande, la guerre du Rif, enfin, bon, on ne parle pas des Balkans ou du Proche-Orient, mais donc un territoire immense, au-delà de l'Europe, touché par ou des guerres ou des révolutions ou les deux, et donc c'était la focale était donc très large, et l'idée n'était pas de raconter la guerre, d'autres livres excellents s'en chargeront, ou de la re-raconter, mais d'essayer de saisir des moments, de saisir la société civile, les arrières, et de le faire à l'aide de, non pas de textes qu'on allait écrire nous-mêmes ou qu'on allait commander, mais le texte qu'on allait retrouver. Et l'idée a été longue, parce que ça, il y a plus d'un an, je dois la faire un an et demi, et de se dire, au fond, on va relire, quand je dis relire, on va lire tout court, des quantités de romans, d'œuvres plutôt de fiction, parfois des documents, Trotsky, par exemple, les mémoires, mais surtout des romans. Et là, c'est à la fois Corinne, Camille, moi également, qui avons lu, je ne sais pas, 100, 150 à peu près, ouvrages, traduit en français, donc beaucoup d'ouvrages français, un tiers et deux tiers quand même d'ouvrages allemands, anglais, américains, australiens, etc., bon, qui racontent d'une façon ou d'une autre, reliés plus ou moins à la guerre, mais qui racontent les événements autour de ces années 14-24. Ce qui fait l'intérêt de cette approche, qui n'a, à mon avis, pas été tentée, sous cette forme-là en tout cas, c'était d'abord d'avoir lu tous ces romans, donc 100-150, et à chaque fois, il fallait choisir d'abord la qualité du roman. Bon, on ne retenait que, évidemment, les romans qui avaient une puissance d'évocation et d'écriture remarquable. Bon, c'est à souligner. On a évité aussi les choses évidentes. Bon, les choses très connues. Bon, les livres qu'on trouve déjà en poche partout. On a évité donc une douzaine de livres très reconnus. On a pris des choses qui sont parfois peu connues, quelquefois tout à fait inconnues. Et la surprise, ça a été une surprise enfin, agréable de voir des bouquins très souvent excellents, encore une fois en écriture et en dramaturgie, mais l'intérêt de l'histoire est de choisir le morceau de bravoure. Comment pouvait-on extraire d'un livre de 300 pages ou 500 pages ou 1000 pages, comment extraire les 50, 100 pages qui sont autonomes, qui sont un gros fragment, une sorte de fragment romanesque en fin de compte, et qui met en scène des personnages et des lieux, mais sans dénaturer le livre, tout en étant respectueux vis-à-vis de l'auteur et du livre. Alors on a fait ce choix, bon, qui est, quelque part on a une pile incroyable de manuscrits, ce n'est que là il n'y en a que 8, mais on a des dizaines et des dizaines de choix qui ont été faits, et après on s'est posé la question de comment mettre en scène ces récits qu'on a empruntés, qu'on a extraits de ces œuvres, souvent pas connues ou méconnues. Et là, on a demandé, et c'est Camille qui a beaucoup joué, et Corinne également, on dit on va demander à des auteurs contemporains ou à des observateurs ou des analystes contemporains, si possible reconnus, de commenter ces choix, de les faire les leurs, bon, qui se personnalisent, et de voir la pertinence du choix, la pertinence de l'extrait par rapport au débat sur cette période, sur ces révolutions ou ces guerres. Alors, par exemple, Trotsky, Camille a demandé, c'est Camille qui a été voir d'ailleurs tout le monde, et c'était plus sûr pour poser des bonnes questions bien carrées et avoir la réponse tout de suite et pas attendre 6 mois le texte de l'auteur. Krivine, évidemment, a tout de suite intervenu de façon très personnelle. Le texte est excellent, d'ailleurs, très inattendu. De Gaulle, c'était, vous verrez tout à l'heure, Rémy Porte, qui est là dans nos murs, qui a fait un très bon texte sur l'armée française. Jean-Michel Ribes, qui a donc commenté à sec sur le phénomène du rire et le besoin de rire face à l'outrance ou face à la. Lawrence, tiens, j'ai un trou de mémoire un instant, parce que comme toi tout à l'heure. John Reed, Chalian sur Lawrence et le Proche-Orient. John Reed, c'est Maspero qui avait traduit le livre, etc. Bon. Donc, voilà l'opération qu'on a lancée il y a un an et demi, 2 ans, le temps de lire, de choisir le préfacier ou le postfacier, de le convaincre, etc., et de faire un objet qui ne soit pas, alors qu'on a voulu, au fond, extrêmement peu cher, parce qu'on allait en faire des quantités, je veux dire, presque industrielles, bon, beaucoup. Donc, on s'est dit, on va choisir les 8 textes qui sont pas reliés par une thématique commune, mais thématique de l'ensemble, 14-24, pour en faire un objet qui soit encoffré, qui dise quelque chose, qui soit lisible par tout le monde, et à un prix de vente qui soit en effet intéressant. Bon, par exemple, c'est 8 livres, et ça, c'est un peu une prouesse éditoriale. On le vend 29 €, ce qui est un prix assez, ce qui fait le livre est presque à 4 €, ce qui est un effort éditorial pour raconter ces conflits, ces révolutions de façon très lisible, de façon pertinente, de façon sérieuse, mais de façon ludique, à un public tous azimuts, tous âges confondus, si possible, bien sûr, des jeunes, qui peuvent peut-être trouver récit par récit, une approche en fait courte, parce que les textes font encore moins de 100 pages, donc c'est quand même une approche complètement, je dirais, pédagogiquement, je pense, bien ficelée. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit sur le coffret, donc on va essayer dans le premier, normalement on devrait en faire d'autres, ça beaucoup dépend des résultats bien en librairie, face, encore une fois, à une espèce de maelstrom de publication sur la guerre, alors que nous, on élargit le débat, bien sûr, à d'autres conflits. Voilà. Merci.
Alors, je garde le coffret.
Les couvertures, on a remplacé les couvertures qui sont, voilà, très vite.
Attends, il te faut le micro.
Qui sont un petit peu Malevitch, même époque, les années 20. Et donc, voilà, vous avez ces. Pour créer un peu une identification, on s'est amusé sur l'ordinateur, on peut tout faire maintenant, c'est bien. C'est génial et ça coûte pas très cher et c'est formidable. Donc on a fait du Malevitch en 2000.
Le « on » ici ne manque pas de saveur, parce que le « on » en question, c'est Henri qui les a faites et qui les a pilotées, les couvertures. Il est très fier de ses couvertures, il voulait pas nous parler, en parler. Écoutez, avec, oui, quand c'est toi qui les fais. Henri ne perd jamais cet aspect-là de vue. Bon, je vais être bref. Écoutez, moi, je voulais d'abord remercier la BPI de nous accueillir aujourd'hui. C'est très une équipe extraordinaire. Remercier Henri qui a fondé les éditions Autrement et qui travaille toujours autrement des autres éditeurs. C'est-à-dire qu'on a travaillé vraiment en collectif, dans un plaisir permanent. Henri m'a sollicité, un enseignant de lycée, non spécialiste, peintre, pour s'occuper et avoir un regard différent sur cette période de l'histoire. Et ça, je pense que il est à peu près le seul à avoir ce type d'initiative. Je voulais aussi signaler ma dette à l'égard de Marc Crépon. J'ai lu son ouvrage qui va donner le titre du premier débat, Le consentement meurtrier, et j'étais enthousiasmé évidemment par cette lecture. Et alors il y avait une phrase que j'ai répétée souvent à Henri et à Corinne en leur disant, mais la question c'est pas tellement de savoir si on commémore, comment on commémore, les points d'historiographie, etc. Vraiment, c'est pas notre affaire, on n'est pas des spécialistes de la question, ça nous intéresse d'ailleurs pas. Mais la question, c'est de savoir quel nous ça fait. Qu'est-ce que ça nous fait et quel nous ça fait? Quelle nation, quelle collectivité, quelle communauté, quel pays cette guerre fait encore aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on doit à cette époque de notre histoire? C'est le fil conducteur qu'on s'est posé en voulant le traiter de la manière la plus pédagogique qui soit. Et ça, Henri insistait toujours sur l'aspect pédagogique. Voilà. Merci à tous.
Non, il en manque un.
Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais redire un petit peu ce qui s'est dit, mais plus brièvement. Je rassure tout de suite le public qui attend, bien entendu, que les auteurs parlent et non pas les gens qui vendent les livres. Merci en effet à la BPI, merci à Henri d'avoir lancé cette collection. Notre premier débat, en effet, a un sujet très précis qui est le consentement meurtrier. Nous allons revenir sur ces deux notions, justement, associées aussi à la notion de propagande, d'embrigadement. Hein. Ce sont des notions que nous sommes forcés d'évoquer ce soir. Je vais d'abord vous présenter, dans un premier temps, extrêmement rapidement, les trois protagonistes de ce premier débat, dans l'ordre, en fait, dans lequel ils vont intervenir. Alors, les présenter, est-ce bien nécessaire de les présenter? Je commence par vous, Didier Daninx. Vous êtes donc romancier et romancier engagé. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à la Première Guerre mondiale. Hein. Déjà, dès 1984, il y avait le Der des Der, sous une forme policière, qui était quand même un des premiers romans à s'intéresser à la question des fusillés pour l'exemple, et qui venait en fait d'une source familiale, hein, si je ne m'abuse, ce grand-père anarchiste et déserteur en 17. La raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est un autre ouvrage tout à fait différent, qui s'appelle en fait « La pub » est déclaré aux éditions Ebeke, et en fait il s'agit d'un ouvrage donc richement illustré, d'affiches de 14-18, de publicité donc, pour des jambes artificielles, pour des choses que l'on peut consommer dans les tranchées, tout un système donc de réclame qui met déjà en place une sorte de société de consommation et de vente. Hein. Et vous avez autour de ces affiches troussé une narration, puisque vous avez voulu faire quelque chose de narratif autour pour parler également de la guerre. À ma gauche, Rémi Porte, vous êtes donc militaire, officier de carrière, et en même temps historien et chercheur, et à ce titre, un des spécialistes reconnus de 14-18. Et vous êtes le préfacier, justement, des deux textes de Gaulle, tirés, en fait, de La France et son armée et de Vers l'armée de métier, qui figurent, justement, dans le coffret qui nous réunit ce soir. Et enfin, Marc Crépon, vous êtes philosophe, donc vous voyez qu'il y a quand même un panel tout à fait intéressant et hétéroclite. Vous êtes attaché au CNRS et en même temps vous enseignez à l'École normale supérieure. Et il y a deux ouvrages particulièrement qui peuvent attirer notre attention. C'est le « Vivre avec » qui était sorti en fait en 2008, où vous parliez déjà du poids de la mémoire des guerres, en insistant aussi sur cette Première Guerre mondiale. Et surtout, le consentement meurtrier, qui est donc paru en 2012 aux éditions du CERF et qui donne donc le titre, en fait, de ce débat. Alors, nous allons commencer par des images, puisque nous allons commencer, en fait, par l'ouvrage de Didier Daninx et par cette idée, en fait, que le poilu fait vendre et que tout est bon pour faire acheter des produits. Alors, on va regarder, en fait, en premier des images. Vous en avez d'ailleurs une ici. Didier, est-ce que vous voulez du coup commenter cette première image?
Ça, c'est des images qui sont... Moi, je vais commencer par juste l'avant-guerre. Et ça, c'est des images qui datent du moment où il faut mobiliser l'argent des Français. Il faut faire des économies. Et donc, l'arrière doit participer d'une certaine manière à l'effort de guerre. Et on va mobiliser toutes les strates de la société française, dont les enfants, par le biais de concours de dessin, des concours de rédaction qui vont être organisés dans pratiquement toutes les écoles de France. Et donc, il y a une marée comme ça de dessins dont certains vont être sélectionnés et affichés et publiés dans la presse.
Donc ça, c'est en effet un certain nombre d'affiches que l'on peut voir dans l'ouvrage. Là, c'est l'embrigadement vraiment des esprits les plus jeunes. Hein. Bon, c'est quelque chose que l'on connaît aussi pour 14-18. Alors, est-ce que la publicité, la réclame, ce matraquage publicitaire, il commence en fait avec la Grande Guerre?
Ben oui, c'est comment. Moi, j'ai travaillé chez Publicis au moment où je commençais à écrire comme ça, et je m'étais jamais interrogé véritablement sur l'histoire de la publicité. Et pour composer ce livre il y a quelques mois, je me suis aperçu que toute une série d'accélérations dans énormément de domaines, que ce soit des domaines techniques, l'aviation, la voiture, les communications et ainsi de suite, la guerre de 14 est un formidable accélérateur. Il y a une véritable révolution qui se passe dans tout un tas de domaines et pour la publicité également. Avant la guerre de 14-18, on a quelque chose qui s'appelle la réclame. On voit dans les journaux une accumulation de toutes petites annonces, comme ça, une sorte de maquis. Et à partir de 1910, donc 4 ans avant le déclenchement de la guerre, il y a toute une série de choses qui nous arrivent des États-Unis, des textes qui sont traduits. Et il y a un courant de quelques dizaines de personnes à Paris qui vont fonder véritablement la publicité moderne. Et ils vont s'appuyer sur tout un tas de découvertes, de questionnements sur la psychologie. Et donc, ils vont inventer la suggestion et ils vont théoriser le fait qu'il faut faire naître le désir pour pouvoir vendre les produits. Et c'est tout à fait nouveau. En 1908-1909, on a les premiers cours qui se déroulent à l'ESSEC. HEC met à son programme en 1911 la publicité avec ses cours venus directement des États-Unis avec le marketing et tout. Et donc la publicité, je vous donne un petit peu des exemples de textes. Alors il y a un ouvrage extraordinaire que j'ai pu trouver grâce à Internet. Et il y a là toutes les descriptions de l'appareil psychologique. Ça donne « Nous estimons qu'en matière de publicité suggestive, surtout, on ne doit demander pas plus au cerveau qu'à l'individu lui-même de faire un effort quelconque, même si cet effort est facilité. Nous avons vu que l'affirmation consiste à mettre un raisonnement tout fait au cerveau. Nous enlevons ainsi à l'acheteur la fatigue de l'association d'idées dont d'aucuns veulent le surcharger. Nous ne pouvons donc lui permettre de faire un travail de mémoire qu'il n'a pas à produire. » Donc on a l'impression que c'est la définition du temps de cerveau disponible. On est véritablement là, qui est quelque chose qui est mis en place à partir de cette période-là. Et on retrouve toute une série d'applications comme ça dès le départ. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à regarder de manière chronologique l'irruption de cette pensée dans la publicité, c'est que peu à peu, le texte disparaît au profit du slogan et au profit d'un dessin extrêmement, extrêmement frappant. Et donc, on a un petit peu ce qui se passe dans la guerre, frapper les esprits, comme ça, on a véritablement la métaphore qui circule dans les pages des journaux. Et le fait de regarder les publicités et d'essayer de les comprendre, de les lire, d'un seul coup, ça ouvre des champs de réflexion sur la guerre de 14-18. Par exemple, toutes les premières publicités sur la guerre, c'est automne-hiver 1914. Et les journaux, l'illustration, puis tous les journaux de l'époque, vont faire des publicités pour des grands magasins, Le Bon Marché, et ainsi de suite, La Belle Jardinière, et on fait de la publicité pour des vêtements militaires. Et je me suis posé la question, moi je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions de guerre comme ça, pourquoi faire de la publicité pour les vêtements militaires étant donné que par essence, ils sont fournis par l'armée ? Tout simplement, il y a l'impréparation. Là, on voit l'impréparation de l'armée et l'incapacité à fournir des vêtements divers à toute une partie des poilus. Et c'est une publicité qui ne s'adresse pas, en fin de compte, aux poilus, mais qui s'adresse aux familles. Et les familles sont mises en situation de devoir suppléer à l'impréparation de l'État français. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va se créer. C'est une sorte de circulation de centaines de milliers de colis entre l'arrière et le front sur absolument tout ce dont ont besoin les poilus. Donc il y a dans un premier temps tout ce qui concerne les vêtements, mais très rapidement il va y avoir la difficulté d'approvisionnement, donc il y a tout un tas de conserves qui vont arriver, et peu à peu la guerre avançant, on voit l'invention de toute une série de produits. Au début, on a des textes comme quoi les obus allemands explosent. Il y en a un sur 10 qui explose, que ça ne fait pas de dégâts. Donc, il y a une minoration comme ça. Puis, peu à peu, ça passe à l'arrière-plan. Et on a des gens qui vont vendre des sortes de gilets pare-balles. Et on a les gilets pare-balles, il y a tous les prix. Et on voit qu'on s'adresse à des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont acheter des gilets pare-balles, des gilets magiques comme ça, qui n'auront aucune efficacité. Puis il y en a d'autres d'une qualité plus haute, qui ont quelques vertus. Et donc on a toute cette série de choses. On a dans les publicités, c'est assez curieux comme ça, l'irruption de la guerre maritime. Donc la présence des sous-marins, elle arrive dans les journaux. Tout simplement, on fait la vente de brassières de survie. Donc il y a des brassières, les brassières Perrin, enfin il y a toute une série de marques comme ça. Et puis il y en a un qui est un petit peu plus malin que les autres, qui montre que sa brassière a beaucoup plus de qualité, étant donné qu'elle est vantée par un survivant du naufrage du Titanic qui a eu lieu 2 ans plus tôt, en 1912. Il y a... En arrivant comme ça, en allant dans la variété des choses, il y a des tout petits moments de poésie, mais ils sont extrêmement, extrêmement rares. Il y a par exemple un produit qui nous renseigne sur le fait qu'une grande partie des combattants étaient des gens qui avaient accès à l'écriture, accès à la lecture, donc l'importance de l'écriture, de la lecture dans les tranchées. Et là, on l'a avec la nécessité d'avoir du papier, d'avoir de l'encre. Et il y a un type qui invente quelque chose d'assez miraculeux comme ça, qui est une sorte de cachet d'aspirine. Au lieu d'être blanc, il est noir, et en fin de compte, c'est de l'encre lyophilisée. Il suffit de trouver un tout petit gobelet et de mettre un petit peu d'eau, de mettre ça, et on a de l'encre pour écrire. Et là, on a quelque chose qui dit sur la guerre de 14, sur le quotidien et sur cette nécessité de dire, de faire passer des informations sur ce lien. Ensuite, on a l'arrivée de choses que je n'avais pas remarquées, moi, dans toutes les images que j'avais pu voir, les films comme ça. Par exemple, les tranchées. Beaucoup de gens sont tués parce qu'ils ont la tête qui dépasse des tranchées. Et donc là, il y a quelqu'un qui va inventer un périscope. Et donc, il va y avoir des ventes de milliers, de dizaines de milliers de périscopes pour que les soldats puissent voir par-dessus la tranchée avec ces périscopes. Et il y a une bataille commerciale des périscopes. Les masques à gaz, pareil, les masques à gaz sont vendus, c'est-à-dire que l'armée ne fournit pas, quand il y a la guerre qui passe à ce qui va préfigurer 39-45 avec l'utilisation des gaz de combat, là il y a les premiers masques sont utilisés, sont fournis par les familles. Et ensuite on bascule à partir de 1916, courant de l'année 1916, il y a ce matraquage des morts. Hein. La guerre de 14-18 pour la France, c'est 1,4 million de morts. Du côté allemand, 1,6 million. Du côté français, ça fait 800 morts par jour. pendant 4 ans et demi. 800 morts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du côté allemand, c'est 900 morts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il y a une sorte d'exaspération, comme ça. Il y a quelque chose qui s'imprime sur une société. Et ça va se traduire dans la publicité. Dans la publicité, d'un seul coup, on a des images gore. Alors que l'image de la mort est pratiquement interdite dans les photos, dans les films, d'un seul coup, elle arrive dans la publicité. On a des têtes de mort ensanglantées comme ça, mais qui, d'un seul coup, s'adressent à... tentent de dresser une image barbare de celui qui n'est même plus l'Allemand ni le Prussien, mais qui est devenu le Bosch. Et donc là, on a, dans la publicité, ce glissement, on le voit, comment il y a l'aspect du combat qui laisse la place à l'extermination. Le terme d'extermination arrive et on va vendre tous les produits contre les poux, contre tous les parasites qui se mettent sur le corps humain. D'un seul coup, ça va être le Bosch. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle Jubol pour les intestins. Et en fin de compte, comme la tranchée s'appelle aussi en argot le boyau, on a un intestin humain et à l'intérieur de l'intestin, il y a une bagarre qui se fait entre les Bosch et les Français, et les Français gagnent grâce à Jubol. Donc on a ça, on a l'espionnite, j'ai encore un tout petit peu de temps, oui. On a l'espionnite. Alors l'espionnite, c'est le thème de l'espion, ça vient dès le départ, ça préfigure la guerre de 14-18. En 1913, il y a Léon Daudet. Léon Daudet, dans l'Action française, va désigner une société comme étant une société allemande qui est en train de préparer la guerre et qui est en train d'installer tout un système de renseignement en France. Et la maison qui est désignée s'appelle Magie. Et Magie, qui est présent dans toutes les villes de France, a un produit phare qui s'appelle le bouillon cube, avec un K. Et donc c'est le K qui, d'un seul coup, attire l'attention de Léon Daudet comme la marque infamante de l'Allemagne. Et il va faire courir toute une série de bruits comme ça. Et dès le début de la guerre de 14-18, il va y avoir des gens qui vont relayer cette rumeur dès le début de la guerre et qui vont détruire toute l'infrastructure des magasins Magie et du bouillon cube. Et il va y avoir... On a même des textes de l'armée qui fait déceler à travers toute la France les publicités plaquémaillées du bouillon cube, parce que quand on les retourne, il y a des chiffres et des lettres qui sont derrière, et une rumeur dit que c'est pour que les artilleurs allemands puissent détruire l'infrastructure militaire française. Et en fin de compte, c'est simplement des marques de fabrique. Et on s'apercevra un petit peu plus tard que la maison Magie n'a jamais été allemande, qu'elle était comme Nestlé, elle était suisse. Mais là, on a aussi un travail idéologique à l'intérieur de la publicité. Et d'une certaine manière, à la fin de la guerre, on aura un aspect miroir entre les bouillons cubes et une autre marque. Quand il y a quelques canons qu'on va nommer faussement la Grosse Bertha qui vont bombarder Paris, un jour de Vendredi Saint, il y a une église qui va être bombardée pendant l'office, il va y avoir 70 morts, et donc Paris va être frappé par ces bombardements. Et il y a une rumeur qui va circuler dans tout Paris, comme quoi les artilleurs se fondent pour être aussi précis dans leur bombardement sur trois publicités, dont une boulevard Haussmann, et c'est les publicités de la maison Saint-Zanneau, qui est un bienfaiteur de l'humanité. Et là, il y a des gens qui vont venir et des hordes qui vont détruire les publicités lumineuses de Saint-Zanneau à travers Paris. J'ai fait quand j'ai vu ça, j'ai cherché sur le site du ministère de la Défense, qui est un site extraordinaire qui s'appelle lamémoiredeshommes.gouv, où il y a toutes les fiches de tous les soldats morts pendant la guerre de 14-18. Il y a 5 personnes qui s'appellent Saint-Zanneau qui ont donné leur vie pour l'armée française. Le temps imparti est court. Juste pour terminer, il y a aussi une utilisation de tout le roman national. C'est-à-dire toutes les figures, Jeanne d'Arc, le chevalier Bayard, le grand Ferré, tout le monde est convoqué. Clémenceau, alors on a des publicités avec le tigre, mais un véritable tigre avec la tête de Clémenceau qui vend du Nescao. Poincaré aussi, une affiche très curieuse, Poincaré qui vend un flan. Un entremets sucré comme ça, et c'est traité sous la forme d'un tableau cubiste. Et là, on voit la manière dont ça attire l'attention sur les dessinateurs qui font un travail absolument incroyable. Et Je voudrais terminer juste sur ça. Il y a quelqu'un, un dessinateur qui va fournir beaucoup d'efforts pour la publicité, qui est quelqu'un de ma ville natale, qui est Francisque Poulbeau, l'inventeur du petit personnage de Poulbeau. Et il fait une publicité pour Noël. Alors il y a une publicité qui est affreuse pour les magasins du printemps. On a un poilu qui est en noir, très sombre, et il ouvre sa capote qui est à moitié une houppelande, et à l'intérieur, il n'y a que des jeux de guerre. C'est une image absolument effroyable, et on voit que Noël et les enfants, cette nuit de Noël, est totalement mobilisée pour la guerre. Et la même année, Francisque Poulbeau fait une publicité, lui. C'est des enfants qui sont déguisés en poilus, et ils font exploser un mortier de 14 juillet, comme ça, et c'est très, très lumineux. Et c'est que il n'y a pas une seule arme, ce ne sont que des jouets qui sont là. Et là, la personne qui a fait passer la publicité a laissé une toute petite mention en dessous du dessin, et il y a marqué Noël, trois petits points, quand même, point d'exclamation. Et dans toutes les publicités, les centaines de publicités que j'ai regardées et tout, c'est le seul moment où j'ai trouvé une sorte de retrait et un moment suspendu. C'est-à-dire que le moment suspendu de l'enfance, comme ça, il est présent dans ce maelstrom, sous la signature de Francisque Poulbeau.
Vous avez bien montré en fait que dans l'ouvrage, du coup, il y a vraiment deux dimensions. Une dimension narrative qui est celle du roman que vous avez inventé autour de cette petite sténodactylo qui va vivre en fait toute la guerre. Et en fait, cyniquement, elle va y plonger dans cette propagande, hein, puisque elle a appris à vendre la guerre et elle apprendra désormais à vendre la paix, dit-elle.
Oui, parce que là aussi, les dernières publicités du livre comme ça, c'est que dès début 1919, c'est-à-dire quelques semaines après la guerre, on commence à organiser les visites touristiques sur les lieux du désastre, et on a les premières randonnées comme ça qui se produisent à Verdun et tout, mais on est dans des lieux où il y a encore l'odeur des corps, il y a encore l'odeur des munitions et tout et tout. Et je me suis interrogé sur cette proximité-là, et l'information que j'ai eue, c'est qu'une grande partie de ces visites ont été organisées après les demandes de familles anglaises et de familles américaines dont des proches avaient disparu et qui voulaient venir rendre hommage et tout. Et c'est le début des fondations pour créer des cimetières, des nécropoles et ainsi de suite. Donc il y a toujours cette ambivalence. Il n'y a pas que le cynisme. Oui. Hein, on le lit beaucoup avec le cynisme maintenant, mais à l'époque, je crois que le cynisme est beaucoup plus réduit qu'on ne le pense.
Ou en tout cas, il y a cette expression fameuse de culture de guerre qui permet peut-être d'excuser des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent sur le moment dans tel contexte que la distance ne permet pas de voir. Pour les gens qui ont l'habitude de lire vos ouvrages, il y a quand même des choses aussi qu'on voit, parce qu'il y a des allusions historiques, le changement des stations de métro, il ne faut plus dire Eau de Cologne, il faut dire Eau de Louvain, donc ceux qui aiment la Grande Guerre verront en effet des choses aussi passer. Et il y a quelque chose, et on finira sur ça pour qu'il y ait une grande équité, parce que je suis entourée d'hommes, donc je suis obligée de manifester une grande équité, bien entendu. Vous avez parlé en fait de l'esthétique, en fait, de ces affiches. Vous avez dit en effet qu'il y avait une quête de l'image, le texte finissait par s'effacer de temps en temps, ou alors c'était des sortes d'onomatopées. Et vous citez en fait Fernand Léger qui dit qu'il y a du jaune qui arrive et tout ça. Alors il y a aussi la beauté qui sort de cette guerre, paradoxalement.
Oui, il y a ça, c'est un texte absolument hallucinant de Fernand Léger aussi, parce que la ville, d'un seul coup, est éteinte la nuit à cause des bombardements, et il regrette complètement le côté luxuriant de la publicité et cette ville. Et d'un seul coup, cette publicité, et en plus, c'est un adepte complet de la publicité, Fernand Léger, et il y a un discours très, très militaire, et il y a une sorte de plaisir de la ville mobilisé.
Ouais. Je pense que du coup, ça pourra donner des pistes pour le deuxième débat qui est aussi centré sur les relations entre l'art et la guerre. Alors, on va du coup changer d'interlocuteur et passer donc de Didier Daninx à un militaire. Donc, nous oublierons le personnage du général Fantin dans le Der des Der pour passer directement la parole à Rémy Porte. Avant de lui passer la parole, il nous a semblé opportun, puisque Rémy Porte en fait a fait la préface donc de ces deux textes de De Gaulle qui sont présents dans l'anthologie, de laisser justement De Gaulle parler, ou par lui notre comédienne Caroline Victoria, sur en fait un texte qui ouvre donc un des extraits que nous avons sélectionnés et qui est, je pense, assez intéressant pour ce qui nous occupe ce soir.
Charles de Gaulle, l'armée française. Grande guerre. La Grande Guerre est une révolution. Dès que paraît en blanc sur les murs le décret de mobilisation, 4 millions d'hommes, un quart de la population active, quittent ensemble la terre, l'usine, le bureau. 4 autres millions les suivront. Fabrication, services publics absorberont en outre 5 millions d'hommes et de femmes. La guerre, qui s'empare des personnes, fait en même temps le trust des affaires. 100 milliards or, la moitié de la fortune nationale, s'engloutiront dans ces abîmes. De ce coup, le régime sur lequel vivait le monde est retourné dans ses fondements. Adieu, la liberté dans la production, la répartition, l'échange. Fini la stabilité des classes et des fortunes. Suspendues les élections. Surveillées les opinions. Censurées la presse. Pensée, passion, intérêts sont concentrés sur le même drame terrible et obsédant.
Alors, révolution, drame terrible et obsédant, ce sont donc les mots que de Gaulle emploie. Les historiens se battent encore pour savoir, Première Guerre mondiale, matrice de notre monde, est-ce que quelque chose a basculé à ce moment-là ? Rémy Porte, en tant que militaire peut-être, ou en tant que citoyen, qu'en pensez-vous ?
Merci, bonsoir. Alors, plutôt que de me lancer dans un long développement qui pourrait être ennuyeux, je préférerais donner un certain nombre de coups de projecteur, donner un certain nombre d'approches sur des points particuliers, et puis poser des questions de façon ensuite à favoriser un échange avec la salle. Alors tout d'abord sur l'intitulé, consentement meurtrier. Alors on aura ensuite, avec notre dernier intervenant, un développement peut-être plus particulier sur ce point-là. En tant que militaire, même si je suis venu, si je suis en civil ce soir, moi c'est le terme meurtrier qui me gêne. Parce qu'il est évidemment à résonance juridique. Derrière, il y a pénal, assise, condamnation, etc., etc., quoi, derrière le mot meurtrier. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me gêne. On pourra peut-être y revenir. On est dans le fondamental. Et je préfère, moi, employer l'expression du rapport, alors c'est plus neutre, mais du rapport du soldat à la vie, à la mort, donnée ou reçue. Parce que c'est vrai que le soldat peut donner la mort, mais il la reçoit aussi. Pour revenir sur ce qui est au cœur du sujet ce soir, guerre-révolution, l'arrière dans la guerre, la mobilisation générale de la société, etc., etc. Et puis, vous avez entendu dans le texte de De Gaulle, toutes ces très brèves références qui sont faites, les élections suspendues, les classes déstabilisées, etc., etc. Non, je voudrais donc donner un certain nombre de points de contexte. Ce qui me paraît important de ce point de vue-là dans la Grande Guerre, et je n'aborderai pas du tout les questions militaires ou les opérations militaires, c'est qu'on passe d'un monde qui est celui du triomphe du libéralisme à tout craint à des sociétés de plus en plus étatisées. Alors c'est vrai en France, évidemment, mais on a cette tradition de Colbert, nous, où l'administration est puissante. Mais vous prenez les deux grandes puissances anglo-saxonnes, le Royaume-Uni et les États-Unis, et pendant que ces deux pays-là vont être en guerre, on va avoir une quasi-étatisation, voire même une nationalisation de la production industrielle et d'un certain nombre de firmes. Pourtant, c'est les pays qui sont les plus réticents à ce type de politique. Et ce qu'on constate dans le domaine économique, on le retrouve dans tous les secteurs de la vie publique, sociale et individuelle. Ça a été bien dit par plusieurs exemples, avec cette question de la publicité et immédiatement induit derrière la propagande, ce qu'on appellera très vite le bourrage de crâne. Pour contextualiser toujours cette période-là, il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de bouleversement intellectuel complet. C'est un véritable bouillonnement intellectuel, le début du XXe siècle, alors qu'il va se traduire ensuite par des formes politiques nouvelles. Mais dès avant la Grande Guerre, vous avez le mouvement futuriste, vous avez tout un... une réflexion à la fois artistique, littéraire, culturelle, etc., etc., qui va, assez paradoxalement d'ailleurs, remettre en avant deux thèmes. Un qu'on pourrait un peu rapidement qualifier de queue de trajectoire d'une forme de romantisme. Il y a le retour à la nature, il y a le corps, il y a, etc., etc. Et puis un autre qui est lié à la puissance, à l'acier, à l'industrie lourde, etc., etc. Et donc ces deux mouvements qu'on va finir par voir se confondre dans l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, en partie se confondre, ben, ils préexistent avant 1914. Et ils, dans une certaine mesure, ils imprègnent la société par capillarité. Donc on ne peut pas les rejeter d'un revers de même. Et pour redescendre d'un cran et en venir à des questions consentement meurtrier, la guerre, ses conséquences sur la société, etc., etc. Quelques points très rapidement. On parle souvent de la justice militaire, en particulier au début de la guerre, à tribunaux spéciaux, etc., etc. Remettons derrière les mots le sens qu'ils avaient à l'époque, redonnons aux mots le sens qu'ils avaient à l'époque et remettons la réalité qui était celle de l'époque. Et je le disais pendant qu'on discutait, pendant la préparation de cette table ronde, il faut se souvenir que dans la justice militaire, il n'y a pratiquement aucun officier d'active. Les officiers de la justice militaire sont pour la quasi-totalité d'entre eux des réservistes qui, avant d'être mobilisés, étaient juristes, avocats, notaires, magistrats, des professionnels de justice. Donc quand ils rentrent de la justice, même en tenue, une fois mobilisés, ils rentrent de la justice en fonction des lois de la République. Lois particulières au temps de guerre, certes, mais lois de la République. Dans les thèmes liés à cette question-là, et en rapport avec les pertes énormes qu'on connaît pendant les premières semaines de guerre, les deux premiers mois, ou le mois et demi globalement du 15 août à la fin septembre, ce sont les six semaines les plus meurtrières de toute la guerre. On l'oublie trop souvent. Et la troisième semaine d'août est la plus meurtrière de toute la guerre. Et donc on a beaucoup accusé l'offensive à outrance. On retrouve ça dans toute la littérature, cette notion d'offensive à outrance. Mais là aussi, on est dans une réaction presque épidermique. Si vous prenez tous les règlements de toutes les armées des différents belligérants, aucun ne prône la défensive. Et jamais aucun règlement militaire, même en Suisse, ne prône strictement la défensive. On ne gagne une guerre que si l'on est offensif. La défensive n'est jamais qu'une attitude momentanée dans l'attente de pouvoir reprendre l'offensive. Donc, sur tous ces thèmes-là, vous voyez, il faut creuser davantage et pas en rester aux idées reçues. De même, et j'en termine avec les pertes énormes du début de la guerre, une littérature qui apparaît alors à partir de 1919 et qui va se développer ensuite, celle des généraux bouchers. On a eu encore en 2004 un livre qui est sorti qui était titré « Joffre, l'âne qui commandait des lions ». Bon. À partir du moment où l'ensemble de la nation est mobilisé, les enfants de ces généraux bouchers, les fils de ces généraux bouchers, ils étaient mobilisés également. De Castelnau perd 3 fils, Foch perd 1 fils et 1 gendre, Franchet-des-Prés perd 2 fils, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils subissent dans leur famille ce que subissent toutes les familles de France. Et quand vous allez sur les monuments aux morts, vous allez trouver les noms d'innombrables anonymes, d'un certain nombre d'officiers, et puis vous allez trouver des fils de famille. Peut-on raisonnablement envisager que ces généraux dits bouchers avaient l'esprit assez pervers pour envoyer volontairement à la mort leur propre fils? Ça commence à devenir inquiétant alors à ce niveau-là. Donc il y a évidemment autre chose qu'il faut prendre en compte, ou d'autres choses au pluriel qu'il faut prendre en compte. Le contexte de la société de l'époque, de la société de 1914, des valeurs de la société de 1914, de la conception du devoir qu'on avait en 1914, etc., etc., etc. Vous voyez, on peut creuser beaucoup plus profondément et ne pas en rester à quelques idées toutes faites ou à quelques phrases qui ont plus la forme de slogan que d'éléments de réflexion. Autre point, les embusqués. Alors là aussi, on est à partir de l'hiver 14-15 dans un discours récurrent. Il y a ceux qui évitent le champ de bataille et il y a ceux qui vont se faire tuer dans la tranchée. Évidemment, celui qui va se faire tuer dans la tranchée, par définition, c'est le poilu. Et dans notre imaginaire franco-français, le poilu, il est fantassin. Et comme il est fantassin, c'est généralement un rural. Parce que les jeunes hommes des ouvriers en ville sont souvent requis pour les armes techniques ou pour l'industrie de guerre. Donc vous voyez qu'on est dans l'image là aussi, on est dans la reconstruction. En fait, on est toujours l'embusqué de quelqu'un. Il y en a toujours un qui, à un moment donné, est dans une situation plus dangereuse que soi. Et je pense que le médecin qui est dans son ambulance à donner les premiers secours juste derrière la première ligne se trouve dans une situation bien plus dangereuse que le fantassin qui est en train de gérer le camp d'entraînement en arrière-front. Donc ce n'est pas une question d'appartenance à tel ou tel type d'unité. Pendant la Grande Guerre, les moments paroxysmiques de bataille durent quelques jours. Entre ces moments de crise extrêmement aiguë, de mort de masse, on attend. Entre ces moments, on est à l'arrière, à l'instruction ou au repos. Aucun poilu n'a été au front d'août 14 à novembre 18. Par contre, la quasi-totalité des poilus ont beaucoup attendu et se sont souvent ennuyés. Donc, vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes. Le télégraphiste qui déroule du câble téléphonique entre un poste de commandement de compagnie et puis un poste de commandement de bataillon est plus exposé que la plupart des fantassins. Celui qui porte les messages est plus exposé que la plupart des fantassins, etc., etc., etc. Donc la notion d'embusqué, une fois de plus, il faut l'apprendre en étudiant presque du cas par cas. On est toujours l'embusqué de quelqu'un. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la justice militaire. 3 autres points très rapidement. La religion. Prenez tous les textes de toutes les confessions en août 14, c'est extraordinaire. Plus patriote que moi, tu meurs. C'est, j'allais presque dire de façon un petit peu vulgaire, l'enflure patriotique. Alors oui, pour ce dossier comme pour d'autres, les choses vont évoluer à partir de 15, de 16 et surtout 17. Mais si on prend la situation dans les premières semaines de guerre, c'est extraordinaire de voir les déclarations d'un certain nombre de prêtres, de pasteurs protestants, etc., etc. Cette volonté d'être plus patriote que les républicains pour mieux réintégrer le corps social et politique de la République. la propagande à travers la publicité que vous avez évoquée, juste un mot, la censure vérifie même en amont, hein, en autorisation préalable, hein, les spectacles de cabaret et les chansons. C'est-à-dire qu'on fait viser les textes des chansons par la censure avant que les partitions, les textes ne soient diffusés. Et puis, je fais un lien par rapport à tout ce que vous disiez. Évidemment, s'agissant d'une guerre, on en revient inévitablement à l'armée. Alors, je ne cherche pas à évacuer les responsabilités, les fautes qui ont été commises, les erreurs qui ont été commises, et il y en a eu, bien sûr. Hein. Mais l'armée n'est jamais qu'un outil, et dans une guerre totale, n'est jamais qu'un des outils à la disposition du politique. Hein. J'évoquais tout à l'heure ces officiers de réserve juristes qui appliquent le code de justice militaire. Mais ce code de justice militaire, il a été voté au Parlement. Un général qui, un soir dans son coin, s'est dit « Tiens, je vais prendre telle décision et faire un code de justice militaire. » Et pour la question de l'habillement, pour la question des masques à gaz que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a une distribution réglementaire du matériel. Mais d'une part, jusqu'au 13 juillet, je vous renvoie au journal officiel de la République, édition des débats parlementaires. Jusqu'au 13 juillet 1914, on est à 15 jours de la guerre, le ministère des Finances et l'Assemblée nationale refusent de voter les budgets pour renouveler les équipements et l'habillement parce que ça coûterait trop cher. Et aujourd'hui encore, en 2014, un militaire qui va partir en opération extérieure perçoit sa dotation réglementaire et puis va dans un magasin spécialisé, je vous dirais type le vieux campeur, s'acheter son duvet personnel parce qu'il sera plus léger, plus chaud, s'acheter tel ou tel équipement parce que la lampe torche sera plus puissante, parce que, etc. Il va s'acheter des appareils ou des matériels plus confortables ou qui juge plus adaptés. Mais ça existe toujours. D'accord. Pour conclure, quand on raisonne sur, globalement, les 3 ou 4 premiers mois de guerre, n'oublions pas que la guerre devait être courte. Alors, elle ne devait pas être courte parce que les militaires avaient décidé qu'elle serait courte, là aussi. Elle devait être courte parce que l'ensemble des élites dans les différents pays étaient persuadés qu'elle allait être courte. Et vous avez globalement 3 facteurs qui poussent à ce sentiment généralement partagé. Il ne faut pas oublier que dans l'Europe de 1914, on a un mouvement, on le voit dans les élections générales en France en avril-mai, mais on le voit en Allemagne avec le Parti social-démocrate, on le voit en Autriche-Hongrie, on le voit en Italie. Il y a une tendance lourde au développement, pas toujours strictement politique et parlementaire, mais au moins sur le plan des idées des mouvements socialistes. Et en 1913-1914, il faut lire pacifiste. C'est-à-dire que la guerre ne peut pas être longue, parce que sinon on aura des problèmes au sein de la société. Donc la guerre, il faut qu'on la gagne rapidement, sinon on risque d'avoir des problèmes avec nos socialistes, se dit-on dans chacun des pays. La guerre, pour les libéraux, elle doit être courte, parce qu'il n'y a rien de pire pour le commerce que la guerre. Et aucun des futurs belligérants, des grandes puissances européennes de l'époque, n'aurait les moyens de vivre au-delà de 4, 5, 6 mois en état de guerre. Pour que notre industrie puisse fonctionner et pour que notre système politique et économique puisse fonctionner, la guerre ne peut être que courte. Et puis vous avez tous les banquiers, alors je mets entre guillemets de façon très générale, tous les financiers, les bourses. La guerre, ça coûte tellement cher qu'on ne pourra jamais plus... dans le texte du général de Gaulle, hein, on vous évoque hein, les sommes énormes qu'a coûté la Première Guerre mondiale. Et dans l'esprit des gens, jusqu'en juillet 14, et même au-delà, la guerre ne peut être que courte parce qu'on ne pourra jamais la financer. Ça sera la ruine pour les différents États européens impliqués. Et donc, très naturellement, l'armée et son état-major, ils ne vivent pas sous cloche par rapport à la société. Ils sont complètement immergés dans la société et ils partagent les idées généralement admises dans la société de leur temps. C'est la même chose aujourd'hui. Hein. Et c'est la même chose, on pourrait parler de 1939 et de la drôle de guerre. Hein. L'état-major n'est pas différent de ce qu'est globalement la société. Et donc, il planifie et il prépare une guerre courte. Voilà. Donc, vous voyez, un certain nombre de pistes, de façon à éventuellement lancer des questions. Et je vous rends la parole.
Alors, les questions ne manqueront pas, sans doute, d'émerger après notre dernier intervenant. Il y a peut-être quelque chose qui est à préciser, mais vous le repréciserez mieux que moi. En fait, Marc Crépon, c'est que le consentement meurtrier, pour vous, c'est une notion tout à fait différente de celle du consentement tel qu'on l'entend généralement dans l'historiographie, en particulier... la fameuse querelle entre le consentement et la contrainte qui oppose deux écoles, enfin qui opposait deux écoles, il paraît qu'ils se sont réconciliés depuis. Le consentement meurtrier, pour vous, c'est quelque chose déjà qui dépasse de toute façon le temps de guerre. C'est un petit peu en même temps la position de l'homme face à la violence, face à la mort. Et c'est encore plus pertinent en temps de guerre, peut-être.
Oui, alors j'en dirais, si vous voulez, je vais peut-être garder pour plus tard la définition du consentement meurtrier, ce qui est. Et ce que j'en fais, et pas partir directement sur ces considérations philosophiques, pour être plus en phase avec les deux exposés qui précèdent. Et je voudrais, moi, pour faire... Je vais rejoindre l'action du consentement meurtrier à partir de ce qui me semble être un thème central, inséparable, qu'on ne peut pas éviter lorsqu'on parle de la guerre. Il est déjà apparu dans nos débats. C'est celui... du pro patria mori, c'est celui du sacrifice pour la patrie, c'est celui de mourir pour la patrie. Et s'il est dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale une controverse à la fois politique, philosophique, qui fait apparaître au grand jour l'inquiétude croissante suscitée par la montée des tensions internationales, c'est celle qui concerne le sens qu'il convient de donner au patriotisme et avec lui à la notion même de patrie. C'est une notion, la notion de patrie, qui, à la veille de la guerre de 14, ne fait pas du tout l'unanimité. Elle divise les esprits, elle trace une ligne de partage entre ceux qui désirent, sinon réclament la guerre, pour venger l'affront de la défaite et reprendre aux Allemands l'Alsace et la Lorraine, et ceux qui récusent dans le patriotisme un chauvinisme belliqueux, n'exprimant rien de moins que les intérêts d'une classe dominante associant la bourgeoisie à l'armée, accusé alors d'être exclusivement à son service et à ses ordres. Donc ça, c'est le paysage qui divise la gauche, la droite, à la veille de la guerre. Et puis, évidemment, dès le 1er août 1914, les cartes sont rebattues. Et ceux qui la veille encore voyaient dans l'idée de patrie l'un des socles les plus inébranlables de l'idéologie bourgeoise, ne tardent pas à céder à la contagion, qui fait de son salut, du salut de la patrie, la raison dernière de toutes les exigences morales et politiques rassemblées pour imposer aux uns et aux autres le sacrifice de leur vie comme un devoir sacré. C'est pourquoi les premières voix qui s'élèvent pour dénoncer la guerre, à commencer par celle de Romain Rolland, alors moi je vais vous parler de Romain Rolland, qui est une grande, grande figure de ce moment-là jusque dans les années 30, à commencer les premières voix qui vont s'élever pour dénoncer la guerre, à commencer par celle de Romain Rolland, n'auront pas de souci plus urgent que celui de démythologiser la notion de patrie et de restituer à l'expérience multiple de la mort au combat, de la mort dans les tranchées, sa vérité propre, contre la rhétorique qui la dissimule derrière le masque glorieux d'un sacrifice universellement consenti. Donc, que faire donc de cette notion de patrie? Quel sens fallait-il lui donner à la veille de la guerre, quand certains comme Jaurès, jusqu'au dernier moment, pensaient, espéraient qu'il serait possible de l'arrêter? Quelle était et quelle sera tout au long du siècle? Quelle est aujourd'hui encore la part de ces usages idéologiques? Quel calcul se dissimule derrière l'invocation de la patrie? Peut-on, voilà une question, voilà une parmi d'autres, peut-on, voilà ce qui fait que 1914 nous concerne encore. Voilà pourquoi il faut penser 1914 aussi par rapport à 2014. Peut-on réduire la patrie aux intérêts particuliers de ceux qui parlent en son nom? Voilà quelques-unes des questions que je voudrais poser rapidement pour rejoindre la question du consentement meurtrier. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie? C'est une très très vieille question, il y a énormément de controverses déjà théologiques au Moyen-Âge autour du pro patria mori, mourir pour la patrie. Lorsque, dès le mois de septembre 1914, Romain Rolland prend la décision de s'opposer à la guerre, dénonçant en elle une faillite de la civilisation, je cite, c'est-à-dire le triomphe de cette barbarie sans nom que pressentait déjà Jaurès. Il faut relire les textes publiés par Jaurès en juin-juillet 1914 dans la Dépêche de Toulouse ou dans l'Humanité. Ce sont des textes qui décrivent avec une intensité dramatique extraordinaire cette montée des tensions. Et lui, Jaurès, dit en juin 1914 que si la guerre arrive, ce sera une barbarie sans nom et qu'elle sera longue et que c'est une illusion de penser qu'elle sera courte. Donc, lorsque Romain Rolland s'élève dès septembre 1914 pour s'opposer à la guerre, il sait qu'il n'est pas d'objection plus redoutable à son appel à la paix que le dogme consensuel de l'injonction qui se veut universelle. Oui, mais. Oui, la paix, mais. Et d'un tu dois, oui, il est juste désirer la paix, mais la patrie est en danger et donc tu dois, nous devons collectivement te sacrifier, nous sacrifier pour son salut. Il n'y a rien de moins, il n'y a rien que nous ayons de plus sacré que cette exigence. Il est dès 1914, ce sacrifice du pro patria mori, du mourir pour la patrie, il est ce sacrifice dont nul ne devrait être autorisé à l'époque à contester la légitimité. Il est l'arc qui met les voix à l'unisson, celle des guides moraux, maîtres de l'opinion, des chefs religieux, toutes les autorités religieuses ou laïques, artistes, savants, même les grandes voix du Parti socialiste se rallient à ce moment-là à cette idée. Il est donc l'art qui met les voix à l'unisson pour créer cette union que dès lors chacun se doit de tenir pour effectivement sacrée. Eh bien, c'est à ces voix que s'attaque Romain Rolland. Et ce qu'il leur reproche, c'est précisément de n'avoir rien trouvé de mieux à offrir à toute une génération que l'idéalisation d'un sacrifice qui cache son nom, qui ne dit pas ce qu'il est. Voilà à quoi touche pour Rolland la critique de la guerre. Elle implique qu'on s'affranchisse de ces mots écrans, pour restituer sa violence à des mots qui ne masquent rien. Qu'on invente et défende, donc ce sera le sens de tous ces écrits tout au long, qu'on invente et défend donc une parole envers et contre toutes les autorités qui s'y opposent, qui mettent à nu sa vérité dans ce qu'elle a de plus insoutenable. Autrement dit, pour Rolland, l'hypocrisie de l'invocation du sacrifice, de sa ritournelle, c'est une véritable ritournelle, et de sa litanie, c'est qu'il n'est jamais, au bout du compte, qu'une façon de déguiser la réalité de la mort de toute une génération, promise à un autre avenir, de la justifier et d'en contraindre le deuil. Voici, je vais vous lire 2-3 extraits de Romain Rolland. Osons dire. Alors, il faut le faire, il écrit ça en septembre 1914, hein, donc il faut quand même le faire. Osons dire la vérité aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de l'opinion, à leurs chefs religieux et laïcs, aux églises, aux penseurs, aux tribuns socialistes. Quoi ? Vous aviez dans les mains de telles richesses vivantes ces trésors d'héroïsme ? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son dévouement magnanime? L'égorgement mutuel de ces jeunes héros, la guerre européenne, cette mêlée sacrilège qui offre le spectacle d'une Europe démente, montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains comme Hercule. Donc vous voyez, ce n'est pas le sacrifice en lui-même que refuse Rolland. Ce n'est pas l'idée en soi du sacrifice qu'il condamne. On peut se sacrifier pour un autre, on peut donner sa vie à la science ou à son art ou à ce qu'on aime. Ce qu'il récuse, au risque de passer comme Jaurès en 1913 pour un traître, c'est d'abord et avant tout son objet d'éclairer et ses raisons avancées. Celle-là même qui contribue à faire de sa nécessité l'objet d'une croyance. Le sacrifice, autrement dit, il faut y croire. Et donc la propagande et donc les contribuent à faire croire au caractère sacré du sacrifice. Le sacrifice, il faut y croire, il doit être lui-même un objet de foi et il ne le devient qu'à la condition de ce pourquoi l'on se sacrifie en justifie la nécessité absolue. Il faut en d'autres termes que la cause elle-même soit sacrée. On ne se sacrifie pas pour rien, sauf à montrer, et c'est tout l'enjeu des débats avant et plus encore pendant la guerre qui tourne autour de la notion de patrie, sauf à montrer que ce pourquoi ce sacrifice est exigé n'est de fait rien, un fantôme, une illusion, une vue de l'esprit, l'objet d'une manipulation, c'est ce que va tenter de faire Roman et quelques autres, y compris après la guerre. Et qu'à ce titre, rien ne l'exige, sauf à montrer donc que la raison de l'appel est factice et fabriquée, et par exemple, qu'il est illusoire et mensonger de définir la patrie comme une grande famille. Donc, la patrie. C'est peu dire que durant les quatre années de la guerre, Romain Rolland ne va cesser de tenter d'en déboulonner l'idole. Elle constitue à ses yeux le nœud de tous les mensonges, non seulement parce que c'est en son nom qu'une génération, celle des pères, alors moi aussi je vais parler des pères et des fils, pas tout à fait de la même façon que vous, mais parce que c'est absolument central. Pour penser la guerre, il faut penser la relation père-fils. Ça, je le crois profondément. Donc, elle constitue à ses yeux donc, la patrie, le nœud de tous les mensonges, non seulement parce que c'est en son nom qu'une génération, celle des pères, croit légitime et nécessaire d'exiger le sacrifice d'une autre, celle des fils, mais parce que ce faisant, elle pervertit les sentiments les plus naturels. Il y a une très belle scène aussi dans le film de Dalton Trumbo que j'ai revu il n'y a pas longtemps, Johnny s'en va en guerre, entre le père et la fille, c'est sur cette question du sacrifice pour la démocratie, etc., qui est encore éminemment actuelle. Elle fait violence, la guerre, jusque dans le deuil, à l'attachement qui lie les générations les unes aux autres, et au fait qu'elles se protègent mutuellement et successivement. Autrement dit, la patrie en temps de guerre, c'est-à-dire le sacrifice exigé pour la patrie, c'est l'idole qui retourne la protection des pères contre la mort en exposition des fils à la mort. C'est pourquoi son invocation en temps de guerre, comme consentement à la mort, produit une rupture incompréhensible de la relation charnelle et spirituelle du soin et du secours qui lie les générations entre elles. Alors, ce que j'appelle le consentement meurtrier dans ce livre, c'est la rupture des relations, alors pas seulement entre les pères et les fils, mais entre les êtres humains, qui c'est la responsabilité à l'origine, au fondement de toutes les relations interhumaines, il y a une responsabilité qui est celle du soin, de l'attention et du secours qu'exige pour tous et de partout la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Donc ça, c'est un principe éthique fondamental absolu, mais dans la vie, personne ne s'en tient à ce principe. On passe le temps à faire des transactions. Et ces transactions définissent notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au monde, on ne peut pas appartenir au monde, on ne peut pas vivre au monde autrement qu'en faisant des entorses à ce principe. Et ça, c'est ce que j'appelle le consentement meurtrier. Donc ça ne désigne pas un comportement particulier. Après, il y a plein de formes de consentement meurtrier. Ça désigne une modalité de notre appartenance au monde, de notre être au monde, de notre vie d'homme. Donc, je peux encore prendre 5 minutes, d'accord. Parce que je voudrais arriver, j'ai une très très belle citation de Romain Rolland qui me fout le frisson chaque fois que je la lis. Il faut quand même que je vous la lise pour que vous compreniez ce dont je parle là, exactement. Donc voilà, la guerre, c'est cette rupture toujours incompréhensible de la relation charnelle et spirituelle, du soin, du secours qui lie les générations entre elles. Et Rolland, il fait souvent allusion dans ses essais, notamment dans celui qu'il publie en décembre 1914 sous le titre « Les idoles », justement. Et il faut retenir l'analyse qu'il donne de la notion. Qu'est-ce qu'une idole ? D'abord, un fantôme de l'esprit que distingue son pouvoir de captation des passions négatives. Et ces passions négatives que capte l'idole, c'est celle de l'asservissement et celle du meurtre. Voilà comment on passe de l'idéal à l'idole. Cela se produit chaque fois que l'objet d'une idéalisation, et à ce titre d'un amour, comme le sont par exemple la justice, la liberté, la vérité, son pays même. Cela se produit chaque fois que l'objet d'une idéalisation, et à ce titre d'un amour, en vient à cristalliser toute autre chose, à savoir la passion de la domination, de l'asservissement, du meurtre, et toute autre passion négative, c'est-à-dire destructrice, celle-là même que Rolland appelle les mauvais instincts. Rien n'interdit donc d'être attaché à son pays, ni d'éprouver un très fort sentiment d'appartenance. Mais la guerre a besoin de davantage. Elle a besoin que cet amour soit meurtrier. Et même qu'il le soit doublement. Pas seulement parce qu'elle donne le permis de tuer, mais aussi, voilà la radicalité de la pensée de Romain Rolland, parce qu'elle fait des pères, alors c'est très violent ce qu'il dit là, parce qu'elle fait des pères, c'est l'essence même du sacrifice, les meurtriers de leur fils. C'est alors qu'il faut donner droit à la singularité de chaque mort et de chaque deuil, au-delà des considérations abstraites. Et alors il y a tous ces essais de Romain Rolland, et puis il y a un roman dans lequel il le fait, dans lequel il décrit ça avec une force incroyable. C'est un roman qu'il commence à écrire en 1916, un roman d'une incroyable audace, dont quelques extraits paraissent en 1900, pendant la guerre, et il est publié en 1919. Et je vous demande de retenir la date. 1919, c'est-à-dire un pays en deuil, c'est-à-dire une Europe en deuil, véritablement. Et c'est-à-dire l'Europe des familles en deuil et des gueules cassées. Et écoutez plutôt, il s'agit d'un texte, le premier, un texte censé être le premier que Clérambault écrit et publie après sa conversion contre la guerre. Alors, Clérambault, c'est un écrivain, un essayiste, et au début, il est plutôt pacifiste, un pacifiste socialiste, on va dire. Et puis voilà que la guerre arrive, et son fils revient, apprend, il habite dans la campagne, et son fils revient de la capitale et lui annonce voilà, la mobilisation générale avec beaucoup d'enthousiasme. Au début, Clérambault est sceptique, et puis il se laisse prendre par un enthousiasme. Alors là, il fait comme beaucoup d'intellectuels à l'époque, il va écrire des vers de Mirliton pour encourager à la gloire des soldats morts dans les tranchées. Et puis donc le fils de Clérambault part à la guerre et arrive ce qui devait arriver, ou ce qui pouvait arriver, c'est que son fils meurt à la guerre. Et là, il y a des moments très, très, très douloureux dans le livre, et puis Clérambault, à ce moment-là, va basculer de ce bellicisme à un pacifisme radical. Et donc, comme c'est un écrivain, il publie des articles. Voilà. Donc ça devient, à ce moment-là, du roman, ça devient un peu le double de Romain Rolland. Et écoutez plutôt, donc, il s'agit d'un texte censé être le premier que donc, Clérambault écrit et publie après sa conversion contre la guerre, lui qui en avait été le premier thuriféraire, acclamé même pour le soutien qu'il lui apportait. Et ce revirement du retournement, qui est aussi une émancipation du deuil des cadres que lui impose la guerre, prend la forme d'une confession publique en forme d'auto-accusation. Des aveux douloureux qui portent en épigraphe une phrase musicale, parce que Rolland était d'abord musicologue, il était à l'École normale supérieure professeur de musicologie, la plainte de David pleurant sur son fils Absalom. Et je vais juste vous lire cet extrait et puis je m'arrêterai après. Je vais couper ce que j'avais prévu de vous dire et je m'arrêterai là. Écoutez, c'est pas parce que ça va. Voilà, j'aurais pu ne lire que cette citation et j'aurais tout aussi bien fait mon travail. Donc voilà ce qu'écrit Clérambault. J'avais un fils. Je l'aimais. Je l'ai tué. Père de l'Europe en deuil, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour vous que je parle. Millions de pères. Pères veufs de vos fils, émis, ennemis ou amis, tous couverts de leur sang, comme moi. C'est vous tous qui parlez, par la voix d'un des vôtres, ma misérable voix, qui souffre et se repent. Mon fils a été tué. Parlez vôtre, je ne sais, comme les vôtres. Comme vous, j'ai accusé l'ennemi, j'ai accusé la guerre. Mais le principal coupable, je le vois aujourd'hui, je l'accuse, c'est moi. C'est moi et moi, c'est vous, c'est nous, que je vous force à entendre ce que vous savez bien, mais ne voulez pas savoir. Mon fils avait 20 ans lorsqu'il est tombé sous les coups de la guerre. 20 ans, je l'ai chéri, défendu contre la faim, le froid, contre les maladies, contre la nuit de l'esprit, l'ignorance, l'erreur, contre toutes les embûches dissimulées dans l'ombre de la vie. Mais qu'ai-je fait pour le défendre contre le fléau qui venait ? Je n'étais pas pourtant de ceux qui pactisaient avec les passions des nationalismes jaloux. J'aimais les hommes, j'avais joie à me représenter leur fraternité future. Pourquoi donc n'ai-je rien fait contre ce qui l'a menacé, contre la fièvre qui couvait, contre la paix menteuse qui, le sourire aux lèvres, se préparait à tuer. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce que pour ne pas
prendre trop de temps.
Alors merci beaucoup d'avoir respecté ce temps. C'est surtout pour laisser en fait la parole en fait au public. Nous avons une petite dizaine de minutes, hein, parce qu'à 20h30 tapante, il faut que nous passions à la lecture. Et il y a déjà donc Monsieur au premier rang qui a une question. Le micro vous arrive.
Je voudrais poser deux questions, dont une à Monsieur Rémy Forte. Vous disiez que les militaires étaient immergés dans la société d'époque, et donc la question que je voudrais poser, donc ils ne maîtrisaient pas tous les événements au point de vue des conduites des opérations militaires, autant du point de vue français que allemand, ou du moins au début.
Alors, c'est un gros débat.
Pardon. C'est un grand débat pendant toute la première partie de la guerre, qui assure la conduite, ce qu'on appelle à l'époque la conduite supérieure de la guerre. Est-ce que c'est le général en chef et le grand quartier général, ou est-ce que c'est l'autorité politique, ministre de la guerre, président du Conseil? Dans un premier temps, avec le repli du gouvernement sur Bordeaux, alors c'est pas tant le repli d'ailleurs du gouvernement et de l'Assemblée sur Bordeaux, que surtout l'éparpillement des grands services administratifs, des grands bureaux de la haute administration, tout le long de la Loire, de la Garonne et de la vallée du Rhône, entre Lyon et Bordeaux. Et donc une espèce de désorganisation de l'appareil d'État, en pratique, pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps-là, la guerre continue, et donc naturellement, la nature ayant horreur du vide, le grand quartier général prend des initiatives qui n'étaient pas prévues, qui ne devaient pas être de son ressort par les textes d'avant-guerre. Et puis très rapidement, à partir du moment où les autorités publiques et les ministères reviennent à Paris en décembre 14, le politique, peu à peu, reprend sa place. Reprend sa place d'ailleurs au prix d'une espèce de combat avec le grand quartier général, qui trouve que finalement c'est bien pratique de pouvoir décider, et qui n'a pas au départ tellement envie de rendre les prérogatives qui s'est arrogé, quoi. Donc la conduite supérieure de la guerre, elle relève de l'autorité politique. On le voit bien quand Joffre est limogé, quand Nivelle est limogé. Donc ça relève bien de l'autorité politique. Mais il y a ce rapport, ce subtil équilibre, hein, entre haut commandement et, pour faire court, gouvernement, puis c'est un jeu à trois bandes, et majorité parlementaire. Hein, on est sous la Troisième République, l'Assemblée nationale est extrêmement présente. On est en temps de guerre, je ne peux donc pas vous répudier ou vous renvoyer trop publiquement. Par contre, à fleur et moucheté, j'essaye d'assurer la direction des opérations, j'essaye de vous priver d'un certain nombre de responsabilités que je vais assumer moi-même. Et on a pendant 3 ans et demi, 4 ans, ce jeu à trois bandes. C'est uniquement avec l'arrivée de Clémenceau à l'automne 17, où il a une position... Et d'ailleurs, c'est significatif, quand Clémenceau devient président du Conseil... C'est le premier président du Conseil du temps de guerre qui prend le ministère de la guerre. Ses prédécesseurs, Briand, etc., les autres, prenaient le ministère des Affaires étrangères. Clémenceau, il prend le ministère de la guerre, et vous connaissez la formule qui est un raccourci de son discours à l'Assemblée nationale, « Je fais la guerre ». Et donc là, il n'y a plus de discussion.
Et heureusement, même du côté allemand, ils ont fait des erreurs, et heureusement, parce que le général Simmocht, il a... Brandon le plancher Flaine qui consistait à contourner Paris par l'ouest et pour contourner l'armée française, ce qui a permis la bataille de la Marne. Mais une autre question que j'aurais posée, mais ça n'a rien à voir, c'est la conduite économique de la guerre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire continuer la guerre pendant 6 mois. Alors comment ont-ils fait pour en trouver pendant 4 ans?
Alors, il y a deux grandes politiques. Alors, je pars pour l'entente, hein, pour les pays alliés. Il y a eu deux grandes politiques. Avec des conséquences complètement différentes. La méthode britannique, c'est je finance la guerre par l'impôt. Donc les impôts augmentent extrêmement rapidement au Royaume-Uni. Et puis vous avez la méthode française, je finance la guerre par l'emprunt. Pour faire court, hein, je résume évidemment, mais globalement c'est ça. Et comme les ressources intérieures, alors il y a bien sûr donner votre or, etc., hein, ces fameuses affiches qui sont bien connues, hein, mais les ressources intérieures sont insuffisantes. Donc on va emprunter d'abord à la City de Londres, et puis très rapidement à Wall Street. Ce qui fait qu'en 1918, avant même la fin de la guerre, l'ensemble des impôts directs perçus en France suffit à peine à payer le remboursement des intérêts de la dette internationale. Ce qui explique toutes les évolutions de 19 et de l'entre-deux-guerres, où les Français s'arc-boutent sur l'Allemagne paiera, parce que si l'Allemagne ne paie pas, on n'a plus une marge de manœuvre budgétaire. Et le fait que, dans de nombreuses conférences internationales et à plusieurs reprises dans les années 20 et 30, enfin jusqu'au début des années 30, la France cède aux amicales pressions de ses alliés anglo-saxons, parce que si les Britanniques et surtout les Américains se décident à exiger le remboursement des emprunts internationaux, on est dans l'incapacité de les payer. Donc on perd notre marge de manœuvre au point de vue diplomatique. Voilà. Donc globalement, financement à l'anglaise, entre guillemets, par l'impôt, financement à la française, entre guillemets, par l'emprunt.
On peut-être poser d'autres questions ?
Une autre question, peut-être.
On n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, déjà ?
Oui, je voulais savoir si on a une idée de la proportion d'intellectuels et de leaders d'opinion qui étaient opposés à la guerre pendant la guerre.
Vraiment très, très peu. Il y a eu très peu de voix pour s'opposer à la guerre, et Romain Rolland est très isolé. Et, mais bon, en même temps, il y a des pacifistes dans... Il y a, alors après, il va rallier beaucoup de voix autour de lui au lendemain de la guerre. Bon, mais Stéphane, alors si, il y a des gens qui l'accompagnent, Stéphane Zweig, par exemple, auquel il est très lié, qui est pacifiste. Hermann Hesse est aussi une des grandes voix du pacifisme. Il y en aura un peu plus après, mais il est quand même très très isolé. Il fait l'objet d'une campagne de dénigrement assez violente, et il écrit une lettre à sa mère à l'époque où il lui raconte comme ça, il lui dit: je commence à devenir un homme dangereux. Voilà.
Alors d'autres mains se sont levées dans la salle, monsieur. Oui,
moi ce qui m'a frappé beaucoup, c'est le grand personnage de De Gaulle, que De Gaulle, au temps de guerre, Il a été capable à donner la retraite à la personne qui avait besoin. Ça, il m'a frappé beaucoup, beaucoup. Ce grand personnage de De Gaulle, un grand père pour la France.
Ce n'était pas une question, c'était un exercice d'admiration, peut-être. Alors.
Non, ça s'adresse surtout à M. Rémy Porte. Vous avez insisté sur les idées reçues. Enfin, c'est un peu dans le sens Flaubert. Hein. Nous avons tous lu le dictionnaire des idées reçues. Qu'est-ce que ça induit ? Ça veut dire qu'il faut aller voir ailleurs, voir plus loin. Mais les idées reçues que j'ai reçues dans ma famille, catholique, droite, ensuite au collège, chez le collège catholique, même au lycée d'État, ne sont pas les mêmes des idées reçues que j'ai pu recevoir donc par la suite, lors de mes rencontres, de mes engagements, etc., etc. Donc là, si vous voulez, vous nous invitez à réfléchir. Mais vraiment, les idées que vous avancez comme idées reçues dont il faudrait se protéger, votre discours, j'ai beaucoup appris, mais ne me convainc pas au point de ne plus les recevoir. Bon. Et la deuxième idée, pardon, je ne vais pas vous ennuyer du tout, mais vous avez cité trois généraux, mais l'un d'eux, je crois que c'était dans un livre de Sandrard, où il est question de l'un d'eux, celui qui perd celui qui perd ses trois fils. Alors que ce soit ces trois généraux de la guerre de 14, ou prenons de l'Indochine, où de Tassigny perd un fils, et Leclerc qui est déjà mort, mais il perd aussi un fils. Bon, mais si vous voulez, ça ne nous renseigne pas sur leur manière de faire leur métier. Parce que je ne condamne pas du tout le fait, j'ai absolument pas des idées libertaires du type je pense qu'il y a des guerres justes, qu'il y a des guerres injustes, je pense qu'il y a des armées à soutenir et des armées pas à soutenir, dans lequel. Pour faire court et dire mon opinion, dans le cas de la guerre d'Indochine, je pense que ceux qui se battaient pour leur indépendance avaient raison. Mais je crois qu'il faudrait, et ce n'est pas mon métier, mais il faudrait voir cas par cas. Ce n'est pas parce que leurs fils sont morts, et je respecte ces hommes, que ce que vous avez dit, que ce serait des pervers, etc., il faudrait voir quelle était leur stratégie, leur manière de se comporter avec leurs troupes, etc., etc.
Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Quand j'évoque les idées reçues, j'allais dire, c'est pour inviter à aller voir, alors vous dites plus loin ou derrière, hein, voilà, hein, et se forger sa propre opinion, sachant qu'il n'y a jamais rien, en particulier dans des situations, qui, dans une guerre aussi longue et aussi complexe, de monolithique. Il n'y a rien de monolithique. Il y a, par contre, une juxtaposition, c'est presque un kaléidoscope, hein, de situations individuelles et de petits groupes et collectives. Voilà. Et tout ça, ça forme finalement un tableau. Quant aux généraux, oui, bien sûr, lorsque Castelnau apprend la mort de son deuxième fils, on lui prête la réponse, lequel ? Quand on lui annonce « un de vos fils est mort », la réponse, c'est lequel ? La question, c'est lequel ? Et puis, froidement, et il reprend ses activités professionnelles, entre guillemets, quoi. Donc, effectivement, ensuite, il faut rentrer dans... Mais j'avais précisé au départ que je ne rentrerai pas dans la partie opération militaire. Hein. Qui fait quoi et qui commande comment ? Et là, on a X et X dégradés de situations individuelles différentes. Hein. On est bien d'accord.
Juste ce qu'il faudrait après, c'est que la guerre, toute guerre, ça vaut... Ça vaut aussi pour la guerre en Irak, pour la guerre en Afghanistan. Toute guerre impose des codes du deuil extrêmement précis. Il n'y a aucune guerre. La guerre est liée à un code du deuil. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manifester son deuil de n'importe quelle façon. Il y a des façons de manifester le deuil qui sont qui passent pour un déshonneur. Enfin, on doit justement... et c'est ça, peut-être, la monstruosité de la guerre. La monstruosité de la guerre, c'est cette perversion complète du code du deuil qui fait qu'on n'a pas le droit de pleurer ses enfants ou qu'on peut les pleurer le plus. Et alors il y a plein de scènes dans la littérature qui racontent ça. Il y a un truc extraordinaire sur la guerre de 1914, c'est le très grand drame du polémiste viennois Karl Kraus qui s'appelle Les derniers jours de l'humanité, qui fait 800 pages, il faudrait 3-4 jours pour le jouer intégralement. Et il y a une scène justement là-dessus sur un général qui perd son fils à la guerre, un général autrichien, et avec toute une mise en scène comme ça du deuil contrôlé. En tout
cas, voilà. Peut-être un dernier mot.
Juste sur le deuil. Je suis allé il y a quelque temps devant un monument aux morts qui est dans la Creuse, dans un petit village qui s'appelle Gentiou. Et c'est un maire en 1922 qui a fait ériger ce monument. Il y a tous les noms des jeunes de la commune qui sont morts. Et il y a une inscription, il y a marqué « Maudite soit la guerre ». Et juste devant cette inscription, il y a le point levé d'un jeune garçon des écoles qui regarde le monument et qui lève le point sur « Maudite soit la guerre ». Ce monument, quand il a été érigé, les idées reçues de l'époque... 1922, ont fait qu'il était interdit de jouer la Marseillaise, il était interdit de lever les couleurs. Quand un régiment passait, parce qu'il y a pas mal de régiments dans le coin et tout, il devait tourner la tête pour pas le voir. Ces interdictions ont perduré jusqu'en 1998. Elles ont été levées par Lionel Jospin en 98, quand il a rendu hommage à Craon aux mutins. Donc ça, c'est une première chose. Ça nous indique de l'état de la société et le chemin qu'il faut faire pour que, d'un seul coup, de nouvelles idées qui peuvent devenir des idées reçues s'imposent contre quelque chose qui a étouffé l'émotion de tout un peuple. Deuxième monument aux morts, à 20 km de là, j'ai plus le nom en tête, j'avais pas prévu d'en parler, sinon j'aurais noté. C'est un monument absolument incroyable sur le deuil. C'est pareil, en 1923, il y a une femme, elle a perdu ses trois fils. Ses trois fils sont sur le monument aux morts. Le père de cette femme, donc le grand-père des soldats tués, a de l'argent et il décide d'ériger un monument qu'il paye de sa poche. Et il exige une chose, sa fille, donc la mère des trois soldats morts, est morte de chagrin. Et c'est le seul monument aux morts en France où il y a les trois noms. Il y a le nom de la mère et ensuite, en dessous le nom de la mère, il y a marqué « morte de chagrin pour la France ».
Alors ce sera notre mot de conclusion, puisque très, très émouvant, puisque le temps nous poursuit. Nous allons passer en effet à la deuxième phase de cette soirée, qui est la phase des lectures, qui nous est donnée par nos deux comédiens, François Raison et Caroline Victoria, choix de texte en fait autour de 14-18. Et je vous demande de remercier nos intervenants, donc Didier Daninx, Marc Crépon et Rémi Porte.